Bonjour David, bonjour à tous. Un tour dans les vignes toircaises pour ouvrir ce journal avec un regard sur les vendanges 2025. L'arrivée d'un insecte en provenance du sud crée du souci chez les vignerons. À l'approche du 120e anniversaire de la loi de 1905, la Ligue de l'enseignement avec différentes organisations a décidé d'aller à la rencontre de la population et des élus. À Menomblé, on cherche le repreneur de l'incontournable, le commerce multiservice de la commune. La municipalité met le gérant dans les meilleures conditions. Et puis à toi, l'étrange week-end se prépare, plusieurs milliers de visiteurs vont jouer à se faire peur à l'orangerie du château. Nous évoquions ce matin la gestion de crise de la dermatose nodulaire contagieuse. La DNC, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a annoncé dans la matinée la reprise des exportations de bovins dès le 1er novembre dans un cadre sanitaire maîtrisé afin, je cite toujours, de préserver la situation économique de la filière bovine et de soutenir tous les professionnels responsables qui ont consenti à des efforts majeurs. Moins de vin dans les caves et un danger accru pour les raisins en Toircet. Bilan mi-chèvre, mi-chou pour les vendanges de l'été 2025. Le climat n'a pas joué en faveur de la vingtaine d'exploitations viticoles du Toircet à l'image du vignoble de France. La sécheresse a eu deux effets contraires, comme l'explique Sébastien Prudhomme, exploitant du domaine de la Roche-Lambard à Mauzé-Toircet, au micro-colline de Dominique Hérault.
Globalement, c'est une petite récolte, hein, comme sur le plan national, hein, une petite récolte, hein, qui est liée à la sécheresse de l'année. On a eu très peu d'eau depuis le mois de mai. Ça fait qu'on avait des grappes qui étaient pas très grosses, des grains petits et des rendements jus qui étaient faibles. Et donc, au final, on a une récolte qui est en déficit de 15 à 20% hein, par rapport à ce que l'on a habituellement.
Par contre, au niveau de la qualité, on peut déjà donner une orientation.
Globalement, la qualité est très satisfaisante du fait de la sécheresse. On a des raisins très sains et très mûrs, quoi. Et on a effectivement des richesses en sucre importantes, et ce qui va induire des teneurs en alcool hein, dans les vins qui sont au maximum de ce qu'on peut rechercher. Pour éviter d'avoir des vins qui soient trop riches, eh bien, on suit l'évolution de la maturité afin de récolter au moment opportun, quoi.
Il se dit que le réchauffement climatique oblige à vendanger chaque année un peu plus tôt que l'année précédente. Des récoltes qui se faisaient le 15 octobre arrivent désormais à la mi-septembre. Pour la même raison est apparue la cicadelle, un insecte qui, migrant du sud de la France, s'est implanté en Val-de-Loire et Toircet, notamment Bouillé-Loré, et il se propage à d'autres parcelles. Sébastien Prudhomme.
C'est qu'en fait, cet insecte est le vecteur d'une maladie qui s'appelle la flavescence dorée, hein, qui est liée à un virus. Et ce virus entraîne la mort des cèpes et donc la perte de récolte. Et donc la prophylaxie consiste à planter des souches indemnes de ce virus, hein, ce qui est fait. Mais malheureusement, il y a toujours des plants qui ne sont pas sains. Et lorsque l'insecte est présent, eh bien, il véhicule la maladie d'un cep à un autre. Le moyen de lutte que l'on a maintenant, c'est de détruire en fait ce petit insecte. Au-delà de 20% de cèpes contaminés, la parcelle doit être arrachée. C'est une obligation.
Une course-poursuite est engagée. Avec un handicap supplémentaire, le viticulteur s'aperçoit de la contamination un an après l'arrivée de l'insecte dans ses vignes. Ce temps de retard ressemble à une peste sournoise qui porte en elle le risque de lourdes conséquences, notamment financières. Reportage de Dominique Hérault. À la Forêt-sur-Sèvre, à Montigny, précisément, un homme de 40 ans s'est barricadé chez lui dans la nuit de mardi à mercredi, menaçant de se suicider sous l'effet de l'alcool et des médicaments. Sa femme et ses enfants ont trouvé refuge chez des voisins. La négociation étant impossible, le PSIG est intervenu en force pour le sortir de chez lui au petit matin. Le service d'accueil des urgences de l'hôpital de Cholet continue de faire face depuis plusieurs semaines à des tensions importantes, et pour éviter une surcharge des services, la direction appelle la population à adopter les bons comportements en cas de problème de santé, à savoir s'orienter en priorité vers son médecin traitant et de ne pas se rendre aux urgences sans avoir consulté le 15. À l'approche du 120e anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État et promulguée un 9 décembre, la Ligue de l'enseignement, avec différentes organisations, a décidé d'aller à la rencontre de la population et des élus, l'objectif étant de promouvoir cet anniversaire. Il y a quelques jours, la Ligue a reçu la visite de Marie-Laure Tirel, secrétaire générale du Comité national d'action laïque. Elle a rappelé l'enjeu de la laïcité dans l'organisation de l'école et de l'importance de cette loi.
Cette loi n'est pas forcément remise en question, mais la laïcité est souvent interrogée au sein de la population à travers son bien fondé, à travers finalement peut-être des interdits qu'elle donnerait aux citoyens à travers l'exercice de leur culte, au travers la limitation de leur expression. Alors qu'au contraire, cette loi est une loi de liberté qu'il faut rappeler au quotidien. Et nous, au sein forcément des établissements scolaires, en tant qu'enseignants, en tant qu'intervenants, il faut qu'on puisse l'expliquer aux élèves, aux étudiants, pour qu'ils puissent prendre conscience de ces libertés. On sait que les plus jeunes ont tendance quand même à s'interroger sur le bien fondé de cette loi, ou en tout cas de l'impact que cette loi peut avoir sur leur liberté. Et donc, il faut leur rappeler que, au contraire, cette loi leur permet toutes les libertés qu'ils ont, que ce soit la liberté de culte, mais aussi la liberté d'expression, plein de libertés sous-jacentes au principe de laïcité qu'il faut qu'ils intègrent pour aussi la promouvoir dans leur cercle familial, dans leur quotidien auprès des différentes personnes qu'ils peuvent rencontrer.
Dans le cadre de ce 120e anniversaire de la loi de 1905 et jusqu'au 9 décembre, la Ligue de l'enseignement avec ses partenaires du comité d'action laïque a prévu de mener différentes actions. Les précisions de Jérôme Bach, le délégué général de la Ligue d'enseignement des Deux-Sèvres, toujours au micro de D4B.
Il y a eu tout un travail de relation avec 7 communes et une quinzaine d'établissements scolaires pour envisager la production d'une trace de cet anniversaire-là. Donc on va continuer d'accompagner toutes les écoles et toutes les collectivités qui souhaitent aborder le sujet, mais on va se focaliser sur un zoom, sur ce qui se passe dans ces 15 établissements scolaires, et on va essayer d'en prélever une essence sous forme d'une production audiovisuelle pour avoir des séquences vidéo qui nous permettent de dire comment on peut parler de la laïcité à l'école, au collège, au lycée, comment on peut en parler dans l'espace public. Et puis voilà, donc les capsules, elles permettront d'évoquer le principe et d'évoquer aussi la manière dont on peut en parler au quotidien. On sent qu'il y a un besoin de peut-être d'avoir des ressources, des outils, une stratégie, une méthode et puis des espaces de dialogue. Donc dans notre programme, il y a comme chaque année la plantation d'arbres. La plantation de l'arbre, c'est un moment où on s'arrête et on installe un symbole. Et c'est l'occasion d'en parler de manière sereine. Mais il y a d'autres outils à développer pour en parler aussi dans la classe, dans l'association de parents d'élèves, en conseil municipal. Donc ces outils-là, on a envie d'en partager. Et on a envie de montrer qu'on peut accompagner tous ceux qui souhaitent le faire.
Au sein du comité départemental d'action laïque, on retrouve bien sûr la Ligue de l'enseignement, mais aussi la FCPE, l'UNSA et des DDEN, des délégués départementaux de l'éducation nationale. Tout autre chose maintenant, à Menomblé, on cherche le repreneur de l'incontournable Menomblé, 700 habitants, son école, son foyer des jeunes, une riche vie associative et l'incontournable, son commerce de proximité, bar, restaurant, petite épicerie et un point FDJ. La gérante actuelle devant se retirer, la municipalité qui a racheté le fonds de commerce en janvier 2024 lance un appel urgent à d'éventuels candidats, le maire Jean-Pierre Marquis.
Oui, il y a un caractère d'urgence puisqu'on veut maintenir le multicommerce, bar, restaurant. C'est quelque chose de très important. C'est un lieu de rencontre, de convivialité, d'échange aussi. Et ça, on veut le préserver à tout prix, quoi. Donc, c'est urgent. C'est une location gérance, oui. Donc, c'est un loyer par mois fixe. On l'a pas mis indexé sur le chiffre d'affaires. Après, bon, si la personne dégage du bénéfice, c'est tout bonheur pour elle. Quoi.
Tous les équipements sont déjà sur place.
Tous les équipements sont déjà sur place. Tout. La licence 4, le mobilier, la cuisine aussi. Ouais, tout est appartient à la mairie et mis à la disposition de la personne qui sera intéressée pour reprendre ce multicommerce.
Vous avez déjà eu des candidats?
Plusieurs candidats, certains, ça a avorté parce que, ils étaient pas dans la vision que nous, on se faisait d'un gérant, quoi. Et on espère recevoir d'autres personnes pour ce commerce. Et c'est vrai qu'on note, l'état d'urgence quand même de cette recherche, quoi.
Arrivée à Menomblé avec son époux en février 2024, Valérie Pipard a apprécié l'accueil et l'engagement de la municipalité pour leur offrir des conditions de travail optimales. Valérie Pipard également au micro de Patrice Bémanangy.
C'est un établissement très bien. Franchement, il n'y a rien à redire en vérité. On n'a rien besoin de refaire. Que ça soit l'appartement, il est adapté. Que ça soit le lieu de travail, il est adapté. On a juste besoin de poser les valises. Si vous êtes vraiment commerçant, que vous aimez la convivialité et le contact avec les gens, et que vous restez simple. Il n'y a pas besoin de 3 étoiles ici. La simplicité, on a la clientèle. Les gens, ils n'ont pas d'autres commerces. On est reparti à zéro complètement. Il n'y avait plus du tout de clients quand nous, on a repris ici. C'était fermé. Les gens sont revenus sur la pointe des pieds. Et puis aujourd'hui, ben, ils sont même un peu déçus que je parte, quoi, parce que voilà, aujourd'hui, la clientèle s'est très vite adaptée.
Vous partez à regret, hein?
À très grand regret, oui. Oui, si j'aurais pas la maladie qui me serait tombée dessus, je ne serais pas partie.
Valérie Pipard et son mari Stéphane ne comptent pas quitter Menomblé. Espèrent eux aussi que ce multiservice perdurera. Ils devront cependant évidemment quitter le logement qu'ils occupent à l'étage avec 3 chambres. Les éventuels candidats pour cette location gérance de l'établissement L'Incontournable sont invités à se rapprocher de la mairie. À Thouars, les bénévoles dans les starting blocks pour l'étrange week-end. La frousse est de retour avec cet étrange week-end dans la 11e édition a lieu ce vendredi 31 octobre, samedi 1er novembre pour les adultes et dimanche 2. Pour les tout-petits, à l'orangerie du château, au moins 4000 visiteurs sont attendus dans ce dédale élaboré depuis des mois par les bénévoles des Agités, l'association des jeunes Thouarsais, les précisions de Guillaume Tomaso au micro-colline de Dominique Hérault.
On commence à dessiner le labyrinthe vers le mois de mars. On a une 40aine de bénévoles qui commencent à s'impliquer autour de ce plan et les décors commencent à prendre vie à ce moment-là. Après, sur le week-end, on peut tourner jusqu'à 120 bénévoles, aussi bien en acteurs, en sécurité, et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir assurer toute la logistique du week-end. On a donc un parcours de 13 salles. On a 2 salles principales à l'extérieur qui sont énormes. La longueur du labyrinthe va faire à peu près 800 mètres, qui va passer donc d'un univers à un autre, quelquefois par du fantastique et très souvent par de l'horreur. Tous les ans, on met un point d'honneur à mettre des nouveaux thèmes pour pouvoir surprendre nos publics les plus fidèles.
Qu'est-ce qui fait votre inspiration?
Chaque bénévole et responsable de salle qui vient apporter des idées toutes plus farfelues sur le papier les unes que les autres, mais qui au final nous donne cet univers particulier qu'on arrive à avoir à l'étrange week-end et qui fait sa singularité. Le public vient de plus en plus loin chaque année. On a même des habitués qui prennent leurs vacances de Paris. On touche vraiment tous les départements limitrophes et de plus en plus loin en fait. On est surpris aussi de ça tous les ans. On a vraiment de tous les âges.
Sans limite donc pour le fantastique et surtout la frayeur librement consentie. L'entrée est à 3€ et le pass VIP à 6€ pour réserver son horaire à l'étrange week-end. La 11e édition, c'est donc ce vendredi 31 octobre, samedi 1er novembre. À l'orangerie du château de Thouars, une séance est proposée aux petits peureux le dimanche 2 novembre de 10h à midi.